Donc bienvenue à vous tous et toutes pour cette soirée donc autour de notre thème que nous poursuivons, mais enfin c'est toujours des épisodes séparés, autour de père, mère, fils et filles. Alors aujourd'hui le sujet c'est paternité et maternité de Dieu. Alors maternité c'est peut-être un peu plus rare, c'est peut-être un peu un scoop pour certains. En tout cas on va essayer de voir un peu des traces de ce thème dans notre Bible, avec, vous avez vu, il y a une sorte de florilège avec un certain nombre de textes. Bon, peut-être que d'autres textes auraient pu être mis dans ce florilège. Alors, bienvenue à Jérôme Prigent, surtout que c'est une grande semaine pour les oratoriens, puisqu'ils fêtent leur 4e centenaire, et qu'il y a sûrement pas mal de travail à gauche à droite. Donc, c'est vrai que quand on avait fait le programme, tu avais dit oui, ben, je ne sais pas si c'est génial de mettre ça dans cette semaine-là. Donc, en tout cas, vous êtes venus. Donc, merci beaucoup à ceux qui avaient choisi de venir.
Il y a le temps des promesses et il y a le temps de l'accomplissement.
Et il y a le temps de l'accomplissement.
Il se fait dans la douleur, je dois dire.
Dans la douleur de l'enfant.
Voilà, l'accouchement.
Et puis, il y a le programme de ces 400 ans de l'oratoire de France. Donc, oratoire, comment on dit, l'oratoire de France.
Oui. Oui.
Voilà.
Et de Navarre.
L'oratoire de Jésus et... C'est ça, surtout.
Oui, enfin,
je sais pas très bien. Enfin, bref, donc, il y a le programme des 400 ans. Alors, nous, à l'oratoire du Louvre, modestement, nous fêtons nos 200 ans d'attribution de cette magnifique église de Bérulle, en fait, aux protestants par Napoléon. Il y a encore une exposition qui est dans l'oratoire et puis à la mairie. Mais bon, donc ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'essayer de creuser un peu cette question de la paternité et de la maternité de Dieu.
En effet, nous avons, comme disciples du Christ, à annoncer un Dieu qui est Père, et nous le répétons... lorsque nous lisons l'Évangile, lorsque nous utilisons les mots mêmes de Jésus, notre Père, et il l'a prié, il l'a enseigné dans la langue qui était la sienne, une langue sémitique, l'araméen, où on retrouve ses racines, Av, le Père, qui devient Abba, hein, dans la prière intime, la prière familière, Papa. Lorsque nous faisons le signe de croix aussi, nous rappelons ce mystère trinitaire, dans lequel nous voyons finalement le dévoilement le plus profond du mystère de l'identité de Dieu, Père, Fils et Esprit, l'Esprit étant cette haleine intime, mutuelle du Père et du Fils. Or, quand nous confessons Dieu comme Père, comme source de toute vie, nous sommes peut-être quelquefois tentés de penser que c'est une évidence, puisqu'il est le Créateur du monde, il est celui qui a façonné le monde, qui a engendré le monde. N'oublions jamais que la paternité de Dieu est l'objet d'une révélation. Ça n'est pas un donné que nous pourrions déduire de nos cogitations ou de nos réflexions théologiques. Et nous perdons de vue souvent que cette paternité est une révélation. La preuve, c'est que dans le Premier Testament, cette paternité de Dieu apparaît finalement assez peu et assez tardivement, à la fin du Pentateuque, avec un texte du Deutéronome, qui est un texte assez tardif. Le Deutéronome, la théologie deutéronomiste, c'est post-exilique, c'est après l'exil. Et puis, surtout, chez les prophètes et chez les auteurs de sagesse. Dans le Siracide, on dit « notre père ». On dit même « mon père ». La paternité devient presque individuelle. Mais au fond, plus on s'avance vers la révélation en Christ, et plus cette révélation de la paternité de Dieu se fait pressante. Mais, chose étonnante, dans les livres des origines, dans les livres des temps originaires, le livre de la Genèse en particulier, cette paternité n'est pas du tout invoquée, ce qui peut nous surprendre un petit peu, puisque précisément pour nous, la paternité, ça évoque l'origine, ça évoque le mystère de l'immémorial, de l'origine, ce mystère qui se perd dans la nuit des temps. Donc cette paternité se révèle progressivement. Pourquoi ? Eh bien parce que chez les autres peuples du Proche-Orient, chez les peuples sémitiques étrangers à Israël, la paternité des dieux et le Dieu qui engendre et qui procrée de façon naturelle, de façon biologique, est monnaie courante. Et souvent dans les panthéons des divinités proche-orientales, le Dieu suprême est souvent appelé le père des autres dieux. Et ces dieux engendrent de façon biologique pour les croyances proche-orientales de l'époque. Ça n'est pas seulement une paternité métaphorique. Elle devient métaphorique dans la Bible, c'est-à-dire elle devient analogique, elle devient symbolique. Et la théologie négative, on en parlera peut-être en conclusion, mais montrera sans cesse que cette paternité n'est que symbolique. Mais pour les peuples qui entourent le peuple hébreu, la paternité des dieux est la paternité la plus biologique qui soit, la plus procréative qui soit, est une évidence. Donc il y a une volonté de la part du peuple de l'Alliance, du peuple hébreu, de se distinguer de ces révélations naturelles, de cette paternité naturelle, en montrant précisément un Dieu, vous l'avez vu, qui ne crée pas le monde de façon biologique, qui le crée par sa parole, par le souffle de sa parole. Donc il y a une volonté dès le début de se distinguer des autres cosmogonies. Et donc le Dieu créateur n'est pas d'emblée un Dieu père. Cette paternité est une paternité qui doit se révéler au cœur de l'homme. Et vous savez très bien à quel point les philosophies du soupçon, Freud, Nietzsche, l'existentialisme, ont dit « Ah bah oui, bien sûr, le Dieu de la Bible, c'est un père, on a projeté l'image du père, un père qui est forcément autoritariste, castrateur, qui nous empoisonne la vie, un père qui est forcément sourcilleux et qui regarde de très près ce que nous faisons, et un père qui, d'une certaine manière, incarne la loi de manière dominatrice. » Eh bien, précisément, cette conception de la paternité de Dieu, où Dieu devient l'adversaire de l'homme, où il devient presque l'ennemi de l'homme, qui veut finalement le contraire de ce que l'homme veut ou de ce à quoi il aspire profondément, eh bien, ce Dieu-là est une construction, précisément, des philosophies. Le Dieu Père qui se révèle dans la Bible se révèle d'une paternité extrêmement discrète et d'une paternité d'ailleurs la moins naturelle et la moins biologique possible. On y reviendra avec Abraham, vous le savez, Dieu se révèle comme celui qui fait quitter la maison du Père. Quitte ta maison, quitte la maison de ton Père. La paternité, l'origine, la filiation trop étroitement liée au sang et à l'engendrement biologique, pour les auteurs bibliques, n'est pas le lieu même de la transmission de la vie selon l'esprit. Donc il y a un gros effort de notre part pour comprendre que le Père qui se révèle n'est pas immédiatement compréhensible à travers nos schémas sur la paternité. Nous avons plein d'idées reçues qui peuvent venir d'ailleurs de notre adolescence, de notre enfance, une vision idéale du père ou au contraire une vision blessée, mais peu importe. La Bible nous dit « laissez tomber tout ça ». Que votre expérience de la filiation, que votre expérience de la paternité soit heureuse ou blessée, Dieu se révèle père autrement.
Ce que tu dis, je trouve, est intéressant, d'autant plus que dans les évangiles, il y a quand même une certaine tension là-dessus. Par exemple, il y a quand même la généalogie dans l'évangile selon Luc. Il y a une généalogie relativement comme ça avec le père, un père qui serait un géniteur, puisque la généalogie, elle remonte jusqu'à fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc à ce moment-là, on retrouve un peu cette généalogie que tu dénonces là, mais c'est effectivement, je crois, vraiment exceptionnel qu'il y ait cette généalogie-là qui remonte jusqu'à un Adam qui aurait été engendré par Dieu, finalement, comme le sont, par exemple, entre David et Salomon, un peu plus haut dans la généalogie. David engendre Salomon, Dieu engendre Adam, et puis comme ça, on est enfant, finalement, presque biologiquement, génétiquement. Alors que dans tout le reste, à mon avis, des évangiles, c'est pas ce même genre de descendance. D'ailleurs, souvent, on parle d'une adoption, d'ailleurs. L'adoption, il n'y a rien de moins géniteur que l'adoption. C'est vraiment par choix, par grâce, et là, c'est vraiment purement de l'ordre du sens. C'est l'ordre de... Et justement, quand on adopte un enfant, surtout, par exemple, une famille de Gaulois qui adoptent un enfant noir d'Haïti, ou je ne sais pas. Donc on reconnaît bien que l'enfant, il ne ressemble pas aux parents. Dans un certain sens, nous sommes comme ça vis-à-vis de Dieu dans l'Évangile. On est appelé enfant de Dieu, mais on lui ressemble guère, finalement, ou modestement. Voilà, c'est vrai que quand même, entre l'enfant noir haïtien et les parents, c'est quand même des humains tous les deux. Donc il y a quand même quelque chose qui est vraiment fondamentalement commun, mais avec Dieu, c'est un peu la même chose. C'est infiniment plus loin que ça. Dans l'Évangile, on est adopté. Et quelque part, par l'esprit, peut-être qu'on est appelé là à se laisser transformer et concevoir peut-être comme enfant autrement, d'une manière peut-être plus, là encore pas biologique, bien entendu, mais en tout cas se laisser naître dans une nouvelle naissance où l'on devient plus au sens propre, peut-être enfant de Dieu, alors qu'avant c'était uniquement adopté, c'est-à-dire qu'on était reconnu par Dieu comme son enfant, alors que bon... C'est un prodige d'amour et d'élection, finalement. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que le nom de père, par exemple, je crois que ça dit quelque chose d'une alliance, en fait, quand même. Je ne sais pas si ça dit vraiment quelque chose sur Dieu, un peu sur sa façon d'être vis-à-vis de nous, oui. Mais il y a d'autres termes, finalement, qui sont en concurrence. Par exemple, quand on dit que Dieu est roi, il n'est pas roi au sens où il porterait une couronne. Mais c'est déjà... un autre type d'alliance qui est proposé, finalement, un autre type de contrat, de relation, où l'un attend de l'autre quelque chose. Quand on appelle Dieu Père, à mon avis, dans l'Ancien Testament, je ne crois pas qu'ils l'entendent... Si, ils peuvent l'entendre parfois, on va le voir, ou comme mère, comme géniteur. Je crois quand même assez. Dans le Nouveau Testament, beaucoup moins. Ça, c'est plus le cas, c'est ça, c'est clair, à mon avis. Mais dans l'Ancien, ça peut être le cas. Quand on appelle Dieu roi, c'est déjà un autre type d'alliance. C'est-à-dire qu'il y a un patron, et puis nous, on est appelés à obéir, et il y a une distinction radicale, finalement. Quand on appelle Père, déjà, c'est un Dieu beaucoup plus proche, quand même. C'est un Dieu beaucoup plus proche. Le Fils est appelé, finalement, à succéder au Père. Il lui ressemble, et puis il va reprendre le boulot du Père. Donc c'est déjà quelque chose qui est dit. Alors, il peut y avoir d'autres images. Par exemple, il y a l'époux. C'est un autre type d'alliance. C'est beaucoup plus proche entre l'époux et l'épouse. C'est un autre type d'alliance entre Dieu et l'homme, Dieu et l'humanité. Bien qu'effectivement, quand même, dans les liens qu'il peut y avoir entre mari et femme dans ce contexte culturel, quand même, le mari est quand même un peu le chef. Hein. Et puis, la femme, elle fait la vaisselle un peu, non? Ou elle porte les... Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais peut-être c'est un peu ça quand même. Alors, il y a d'autres types de relations. Ça peut être, par exemple, mais c'est beaucoup plus rare. Ça, c'est le plus courant, quand même. C'est le roi, dans l'Ancien Testament, le Seigneur. Bien qu'on peut regretter que le tétragramme, YHWH, Yahvé, soit traduit des fois par le Seigneur, comme dans ces traductions-là, qui sont issues de la Tobe. À mon avis, c'est un contresens, parce que c'est... Quand on dit... Quand on appelle Dieu du tétragramme sacré, Yahvé, c'est quand même plus le Dieu source de l'être, si vous voulez. C'est pas tellement le patron, le chef, le roi, le seigneur. Ça, c'est un contresens, à mon avis, cette traduction. Mais c'est bon, c'est en passant. Alors sinon, il y a un terme qui est beaucoup plus rare comme type d'alliance, c'est le Dieu ami. On l'a une fois ou deux pour Abraham, dans Ésaïe. Abraham, l'ami de Dieu, c'est repris dans la lettre de Jacques, je crois. Ça, c'est beaucoup plus rare. On l'a un peu peut-être dans ce que dit Jésus-Christ dans Jean 15 à la fin. Il dit « Je ne vous appelle plus, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. » Et ça, c'est quand même encore plus proche, à mon avis, que père, encore plus proche que époux-épouse. Ça, c'est quand même incroyable, je crois. Et c'est très, très rare.
Et l'imam va dire à mes frères oui. que je les attends oui. en Galilée.
Donc là, ça devient frère. Oui, c'est ouais, frère. Ouais. Mais à la limite, les frères, comme dirait l'autre, on les choisit pas, alors que ses amis, on les choisit. Et c'est là encore une élection, finalement. L'amitié, c'était le lien suprême dans ce contexte grec, je pense. Je ne sais pas. Je pense. Enfin bref, donc, ce lien de père... c'est quand même, ça dit quelque chose d'une alliance particulière avec Dieu. Et je crois que ça mérite qu'on s'y penche un petit peu aujourd'hui.
Alors c'est vrai, bien sûr, que l'accent que je mettais sur la distinction du père géniteur et du père qui adopte, qui entre en alliance, et qui réapparaît, hein, dans plusieurs livres de la Bible, un père qui engendre spirituellement, après effectivement avoir aussi donné la vie, bah, ça témoigne bien sûr du fait que nous sommes dans une société patriarcale. La société biblique est une société patriarcale et qui effectivement est en tension avec cette culture qui n'est pas propre à la culture biblique, bien entendu. C'est tout le Proche-Orient qui est patriarcal. Le père est le géniteur, mais il est aussi celui qui nomme. C'est celui qui donne le nom, qui transmet le nom. On le voit avec Zacharie et Jean le Baptiste. Et d'ailleurs, le mutisme de Zacharie est assez éloquent à cet égard-là, comme s'il y avait un autre enfantement, un autre lignage qui venait perturber le lignage terrestre. Donc le père donne le nom, le père éduque, le père est celui qui transmet les traditions nationales et religieuses. Il n'y a pas d'autre vecteur institutionnel dans la société patriarcale des temps bibliques. Le père est aussi celui qui transmet le métier. Je vous rappelle que le métier est héréditaire dans le peuple hébreu. Et on le voit encore avec Jésus qui apprend le métier de son père. Donc le père est vraiment au centre de la famille, du clan. Il est le témoin de la loi et il est aussi le garant de la juste distance à la mère. Vous le savez, sans entrer dans des développements trop psychanalytiques, le père est celui qui précisément a un mode de présence qui est différent de la présence maternelle, avec deux écueils, un père trop présent et trop autoritaire qui laisse peu de place à la croissance du fils, ou un père au contraire trop absent qui empêche justement cette déliaison de se faire entre le fils et la mère. Et on voit bien que là, avec humour d'ailleurs, l'écrivain biblique montre dans la manière dont la bénédiction passe de Ésaü à Jacob, frauduleusement, vous le savez, parce que la mère est intervenue, que Dieu arrive d'une certaine manière à utiliser aussi cette maternité qui faisait peur dans une société patriarcale, le monde des femmes, le monde des jupes, le monde sous la tente. Était précisément le monde dont le garçon, l'homme, devait s'émanciper. Mais on voit bien là aussi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi très largement le Dieu de Sarah, de Rebecca et de Rachel, et que les matriarches jouent un rôle. Elles jouent un rôle parce que même dans leur stérilité, elles sont fécondes, et puis dans la transmission des bénédictions, par une attitude à la fois humoristique et frauduleuse, elle détourne la bénédiction sur le fils. Donc vous voyez une société patriarcale, mais une société patriarcale où les lignes bougent et où on voit bien que les textes essaient de faire bouger précisément ce qui peut être présenté sous le signe de la fatalité, de la reproduction, du même. On n'est plus dans un temps cyclique où on reproduit sans cesse les mêmes schémas patriarcaux, on est dans un temps qui essaye de démarrer, un temps incoatif qui essaie de trouver une nouvelle linéarité, peut-être de ce temps qui patine, ce temps patriarcal, il faut lui donner une autre orientation, et c'est l'ouverture de l'histoire, tout simplement. Et au commencement de l'histoire du salut, il y a des femmes, bien sûr. Alors, on peut peut-être lire le texte
Oui.
de la Genèse.
Alors, c'est vrai qu'on peut lire. Donc, on a cherché, en fait, ce qui est plus rare, quand même, la maternité de Dieu dans ces textes. La paternité, c'est relativement plus évident parce que, bon, bien sûr, dans le Nouveau Testament, c'est parfaitement clair et central, comme tu viens de le dire, Jérôme. Dans l'Ancien Testament, quand même, on appelle Dieu Père. Assez rarement, en fait, peut-être une vingtaine de fois, mais explicitement, on l'appelle Père. Alors que mère, jamais, en fait. Ça, c'est complètement gommé. Alors que, on va le voir, ça, la notion existe quand même. La notion existe visiblement, mais le texte biblique ne va jamais jusqu'à appeler Dieu mère.
C'est Sion qui est la mère.
C'est Sion qui est la mère, peut-être. Jérusalem, peut-être. Ou alors, effectivement, c'est l'humanité qui est notre mère, dans un certain sens. Et Dieu joue le rôle, à ce moment-là, de l'époux, quand même. Alors, ça, c'est quand même assez étonnant. On pourra réfléchir pourquoi est-ce que la Bible refuse d'appeler Dieu mère alors que la notion existe. Il peut y avoir un certain nombre de raisons. Donc, on peut essayer de, je sais pas, de psychanalyser les auteurs bibliques qui les ont empêchés ou qui ont fait censurer peut-être ce terme parfois. Alors le premier passage, c'est celui de la Genèse, donc peut-être on peut y voir quand même là aussi une trace. Hein. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, toutes bêtes qui remuent sur la terre.
Donc c'est le premier récit de la création, il y en a un deuxième. Si vous êtes familier des textes de la Genèse, ici nous sommes dans Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image. Et quelle est l'image de Dieu? Eh bien, vous avez bien lu, mâle et femelle. Alors, faut-il imaginer un Dieu hermaphrodite? Il s'agit ici de comprendre qu'il ne s'agit pas précisément d'un engendrement biologique, précisément, comme je le disais au départ, qu'il s'agit d'une sorte de création à partir d'un modèle. Le modèle, c'est Dieu, cette identité de Dieu, mâle et femelle. Alors, c'est très intéressant parce que par la suite, alors que c'est le premier texte de la Bible, ça, juste après la création du monde, ça paraît gommé, ça paraît en tout cas estompé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons lu les textes concernant le déluge dans le livre de la Genèse le mois dernier. Et dans le déluge, on voit Dieu qui, dans un moment de colère contre le peuple qu'il a créé, à qui il a donné vie, décide de mettre fin à la vie. L'explication pessimiste qu'il donne de sa création, c'est-à-dire une création qui a déchu, qui n'a pas été fidèle, qui a été de péché en péché, après le premier péché de l'homme et de la femme, Dieu décide de cette création d'y mettre un terme, de la rayer de la carte. Et ce pessimisme, d'une certaine manière, cette radicalité, cette violence dans la réponse, a quelque chose de très masculin. Alors que le Dieu, d'après le déluge, vous vous en souvenez, décide de contracter une nouvelle alliance, qui n'est plus l'alliance noachique, mais qui n'est plus l'alliance adamique, mais l'alliance noachique, l'alliance avec Noé, et Dieu comprend que le pessimisme de sa lecture de l'histoire, que sa lecture de l'histoire vers un déclin inexorable, est une impasse. Et il renonce à cette lecture, il renonce à ce pessimisme, et il dit « plus jamais je ne détruirai l'humanité ». Et il passe avec l'humanité une nouvelle alliance, et il fait de l'histoire humaine une lecture optimiste, réaliste, parce qu'il sait très bien que le péché va continuer à s'étendre. Mais il n'ira plus rayer de la face du globe cette humanité qui lui est infidèle. Donc moi, je pense qu'on peut voir dans la première réaction une réaction qui est assez masculine, une réaction violente, une réaction guerrière, une réaction implacable, la justice implacable de Dieu qui détruit sa création parce qu'elle n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Alors que l'autre est une vision beaucoup plus féminine, une conception de l'histoire où la vie, au sein même de la mort, peut se frayer un chemin Et les femmes de cet auditoire le savent, beaucoup de femmes n'ont pas souvent les réactions aussi radicales ou désabusées, mais elles savent là où en apparence tout semble compromis, là où l'espoir semble triompher, eh bien, on l'a vu par la transmission de la foi dans des pays qui géopolitiquement étaient évidemment sous la férule de régimes ou d'idéologies qui voulaient étouffer la foi, les femmes arrivent à déceler un chemin de vie, voilà, à discerner un chemin de vie là où la mort semble l'emporter. Et donc on voit en Dieu cette tension du masculin et du féminin. On parle toujours en théologie chrétienne de ce conflit en Dieu entre la justice et la miséricorde. Cette dialectique qu'il y a en Dieu entre la justice, qui va forcément vers le jugement, et la miséricorde qui fait grâce. Et bien précisément, cette justice et cette miséricorde reflètent peut-être cette dimension à la fois masculine et féminine de Dieu. Donc un Dieu qui, lui-même, face à son humanité, face à l'humanité qu'il a créée, se cherche et équilibre les deux pôles de ce qu'il est en profondeur.
Oh, mais ça m'intéresse ce que tu viens de dire, parce que quand on regarde la mission qui est donnée, là, voilà, donc Dieu créa à son image l'humain, mâle et femelle, il les créa, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et prolifiques », c'est quand même ça, plutôt un ministère, c'est plutôt côté féminin, en fait, la fécondité. C'est quand même plus difficile pour l'instant pour les hommes, à cause de raisons purement techniques, mais néanmoins assez prégnantes. Remplissez la terre et dominez-la, c'est quand même plus le rôle des... Je veux dire, enfin, qu'on attribue quand même plutôt aux mecs, en fait. Et c'est vrai que quand on regarde les prisons, je pense qu'il y a quand même 10 prisons pour hommes avec une prison pour femmes, quand même. C'est... Et souvent, enfin bon, je veux dire, il peut y avoir des fous chez les hommes comme chez les femmes, à égalité. Mais quand même, c'est vrai que les hommes sont plus les champions...
Une petite fois. Bonsoir, Sandrine.
Bonsoir. Ils sont plus les champions de la violence que les femmes, ça c'est clair. Et les femmes sont quand même plus côté tendresse. Je ne sais pas si c'est hormonal ou culturel. À mon avis, ce n'est pas seulement culturel. C'est quand même un petit peu câblé comme ça d'origine. Alors quand je regarde l'alliance qui est faite avec Noé, là, ce que tu disais, bon voilà, l'alliance, elle est quand même beaucoup centrée sur Dieu a fait l'homme à son image et vous soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. C'est quand même une mission quand même beaucoup plus féminine qui est donnée à l'homme. Et la violence de l'homme, elle est notée au passage, oui, vous avez la mission d'être source de vie. Bon, vous êtes aussi source de violence et de crainte pour votre entourage, mais bon, c'est un peu comme ça, comme un fait, mais c'est pas dans une mission. Alors que là, bon, il semblerait qu'on a quand même ici une mission. Et quelque part, ce que tu disais sur la justice et sur la tendresse, eh bien, on la retrouve un peu ici, dans ces deux missions qui sont données. Enfin, il y a quatre mots, mais il y a quand même finalement, grosso modo, un peu de missions. On les retrouve un peu dans la justice et la tendresse ou la fécondité et puis la domination. Alors je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre là-dessus, mais si ce n'est que voilà, ça c'est quand même un peu l'image de Dieu, donc c'est vrai que ça a l'air de pêcher d'aller dans ce sens-là. Alors la deuxième, il y a des remarques peut-être là-dessus, non, ça va, c'est pour l'instant, oui. Y a-t-il des médecins dans la salle?
Dites-en plus.
À une plus grande souplesse, oui. Donc on serait peut-être un peu câblé comme ça, en fait. On serait un peu fabriqué comme ça, à être plus violent que la femme.
En fait, j'y pense Ça explique beaucoup de choses.
Alors que Dieu n'est pas latéralisé, ça.
Dieu serait.
Non, non, non. Oui. On l'a, vous l'avez dit, ouais. humain l'a attrapé, lui a donné une image, lui a donné une explication, et forcément c'est par rapport à ce qu'il est lui-même, l'homme, bien entendu. Il ne pouvait penser que par rapport à son être créé.
Voltaire.
Il n'inventait pas.
Tout à fait.
En tout cas, si on parle de Dieu en sens d'un côté féminin de Dieu à travers cette tendresse, c'est littéralement le cas, parce que dans la Bible, le mot, parfois c'est traduit par miséricorde, parfois c'est traduit par grâce, mais enfin, raham en hébreu, c'est le même mot exactement littéralement que l'utérus en fait. Donc c'est cette miséricorde de Dieu, ce qui est un des grands attributs de Dieu dans l'Ancien Testament, et qui va devenir, à mon avis, quand même une notion centrale dans le Nouveau aussi, c'est cette tendresse de Dieu. On peut traduire par miséricorde, mais miséricorde, c'est un petit peu du patois d'église, finalement. Enfin, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est un cœur tendre. Je dirais plutôt, dans le langage courant, c'est la tendresse maternelle, en fait. C'est tendresse maternelle, littéralement. C'est-à-dire, c'est la tendresse... C'est presque même pas une tendresse choisie, presque. C'est un peu vache de dire ça, mais... C'est la mère, la tigresse qui est tendre pour son bébé tigre. C'est la reconnaissance de son enfant qu'elle a porté dans son sein pendant un certain temps, avec qui a été vibrée dans une harmonie qui semblera toujours mystérieuse pour nous les hommes, ou pour les femmes qui n'ont peut-être pas porté d'enfant, je ne sais pas. Mais un lien tellement profond que c'est la tendresse devient naturelle, devient même plus vraiment... Ça fait partie de la nature même de la mère, enfin d'une mère, en tout cas c'est comme ça qu'on présente les choses. Peut-être aussi pour dire que cette tendresse de Dieu, tendresse maternelle, elle est comme une matrice, un utérus qui nous fabrique, qui nous enfante, qui nous conçoit finalement. Pour dire que cette tendresse de Dieu est source de vie pour nous, on pourrait dire ça. Enfin donc en tout cas vraiment dans cette idée de miséricorde ou de grâce de Dieu, c'est pas le même mot. Alors c'est là que c'est ambigu, si vous voulez, qu'il y a le mot grâce aussi qui apparaît, qui est parfois la traduction d'un autre concept qui est la grâce comme la grâce présidentielle, c'est-à-dire un roi qui aurait pu couper la tête d'un coupable et qui décide finalement de dire, c'est pas qu'il soit innocent, mais je décide, parce que je suis le roi, de laisser en vie ce coupable. Ça l'innocente pas, mais ça le laisse en vie, c'est-à-dire qu'on renonce à la... on amnistie, on efface l'ardoise. Alors, ce n'est pas le même mot en hébreu. Cette grâce du roi sur le coupable ou sur le serviteur, ce n'est pas le même mot. Il y a le mot la miséricorde ou la grâce qui est une tendresse maternelle. Et ça, c'est vraiment un attribut qui donne un côté très féminin à Dieu, qui lui donne un utérus, finalement, quand même, c'est d'un certain sens.
Alors, je crois qu'en français, miséricorde et tendresse, ça a un sens pour moi relativement différent. Peut-être en hébreu, c'est le même racine, je ne peux pas...
Non, mais c'est traduit. Le mot, les mots, ces mots-là qui désignent soit la grâce du... Le mot utérus est traduit parfois comme miséricorde et parfois comme grâce dans le texte biblique, en fait, ancien, dans le texte de l'Ancien Testament.
Miséricorde, donc le cœur qui est misérable, qui se fait misérable... parce qu'il est compatissant. Donc dans la miséricorde, il y a une dimension d'empathie. Le cœur qui descend, qui condescend, comme on disait autrefois, mais aujourd'hui, évidemment, le mot est péjoratif, mais le cœur qui entre en sympathie et même en empathie et qui fait de la misère de l'autre sa propre misère. Alors effectivement, la miséricorde a pris un sens souvent très vertical, comme la charité, malheureusement. Donc un sens finalement... de grâce que l'on fait à quelqu'un de façon unilatérale. Mais dans la miséricorde, dans le concept, c'est peut-être un mot à réhabiliter, ou alors il est définitivement étiqueté comme religieux. Dans la miséricorde, il y a bien une égalité. On est dans un partenariat, une compassion au sens vraiment étymologique, une empathie totale. Et effectivement... du coup, la tendresse est assez proche de la miséricorde. Mais de fait, on en a fait un synonyme de pitié. Vous savez que la pitié peut être aussi un sentiment, ça peut être de la compassion, mais ça peut être un sentiment tout à fait dégueulasse. La pitié, c'est un sentiment très vertical, où on a pitié des gens à qui on ne veut pas ressembler. Hein. Mieux vaut faire envie de pitié, dit-on, mais la vraie pitié, celle qui ébranle le cœur, qui rend le cœur misérable, qui est la pitié de Dieu, hein, effectivement, est aussi un mot qui implique non pas l'unilatéralité de la relation, mais une relation de communion dans la souffrance. Alors, le terme haram, précisément, c'est un mot magnifique. Je suis allé voir et il apparaît dans un texte que nous n'avons pas mis ce soir, mais qui est chez Jérémie, Jérémie 31, où Dieu dit « mon haram, raham en fait, hein, mon raham, c'est-à-dire mon utérus, frémit pour Éphraïm ». Éphraïm, c'est l'une des tribus d'Israël, en fait, métonique. De façon métonymique, c'est le peuple hébreu. Donc, mes entrailles, traduit-on souvent. Mes entrailles, quelques traductions plus audacieuses disent mes mamelles frémissent pour Éphraïm. Mais il s'agit bien de l'utérus. Et on peut imaginer que lorsque Élisabeth, dans la visitation, reçoit la salutation de Marie, s'il fallait traduire dans une langue sémitique, on aurait aussi l'utérus, hein, là où on dit toujours l'enfant a tressailli dans mon sein, etc. Parce que le mot grec, effectivement, est anatomiquement plus bienséant pour la langue grecque de l'époque. Mais voilà, on a quand même dans l'Ancien Testament Dieu qui, dans la bouche de ses prophètes, dit mon utérus frémit pour. Voilà. Donc, c'est-à-dire tout mon instinct de mère. Moi, Dieu, mon instinct de mère, frémit, vibre pour toi, Israël.
Ça, on l'a quand même en bas de la première page, sur Exode 34. Hein, Dieu miséricordieux, alors j'ai rajouté entre parenthèses matriciel, si vous voulez. Mais c'est ce mot-là, c'est le Dieu qui a un amour, une tendresse maternelle, une tendresse du ventre, finalement. Hein. Alors, cela dit, je crois qu'effectivement, l'avantage quand même de ce mot-là par rapport à la miséricorde, c'est que la miséricorde, c'est en situation de misère, en fait. Et donc, il peut y avoir de la compassion, de l'empathie ou de la pitié, mais là, à la limite, ça fait plus d'usage, parce qu'on n'est quand même pas toujours dans la misère et la catastrophe. C'est aussi un Dieu qui nous accompagne dans les bons jours, qui nous donne la vie, même sans attendre qu'on soit dans la misère la plus noire.
C'est augustinien, c'est-à-dire la condition humaine est misérable pour Saint
Augustin. Misérable, voilà.
Donc voilà, l'Occident a mis l'accent sur ça.
Alors on peut lire peut-être le deuxième texte, qui est un texte qui fait apparaître à la fois père et mère, mais comme vous allez voir, plusieurs de ces textes finalement. Alors je sais pas, je peux lire ça, hein, c'est...
Ou quelqu'un
veut le lire, ou je sais pas, ou s'il y a...
Chantal, tu...
Ah. Moi, je vais vous donner le... Je sais pas si j'ai assez de films, mais...
Joseph est le rejeton d'une plante luxuriante. Rejeton d'une plante luxuriante près d'une source, dont les rejets franchissent un mur. Ils l'ont provoqué, ils l'ont querellé. Les archers lui firent la guerre. Mais son arc demeura ferme, alors qu'il jouait des bras et des mains. Par la force de l'indomptable de Jacob, par le nom du pasteur, la pierre d'Israël, par elle, ton père, qu'il te vienne en aide, par le Dieu puissant qu'il te bénisse. Les bénédictions des cieux d'en haut, les bénédictions de l'abîme étendue sous terre, les bénédictions des mamelles et du sein, les bénédictions de ton père se sont imposées aux bénédictions des montagnes antiques, aux frontières des collines d'antan. Qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré parmi ses frères.
Merci. Merci beaucoup. Alors là, donc, au début, voilà, peut-être il faudrait reprendre légèrement la traduction. Hein, Joseph est le rejeton d'une plante luxuriante. Donc ça, c'est très beau. En fait, on pourrait dire est le fils de la fécondité, en fait. Et le fils de la fécondité, c'est ce mot-là, c'est le mot... c'est ce qui porte du fruit, c'est ce qui est fécond, c'est le terme technique pour ça, finalement. Hein, donc, et rejetons ses fils. près d'une source. Alors, c'est doublé, finalement, hein, fils de cette fécondité. Mais cette fécondité, donc, c'est quand même Dieu, bien sûr, là-dedans, près d'une source. Alors ça rappelle tout de suite le psaume 1, si vous voulez, avec Dieu, qui est cette source d'eau. En fait, là, c'est le mot pour le puits, en fait. Alors le puits, c'est aussi une figure, hein, de cette alliance de la fécondité, hein, parce que c'est là que les gens se marient, hein, vous savez, dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus rencontre la Samaritaine au bord d'un puits, c'est vrai qu'en fait, c'est assez ambigu. C'est Jésus qui vient draguer, en fait, la Samaritaine, si vous voulez. C'est un lieu d'une épousaille. Sauf que là, on découvre que Marie ne va pas, enfin, que Jésus ne va pas épouser la Samaritaine au bord du puits, mais que ça va être une autre épousaille. Finalement, dans un certain sens, c'est celle d'un sauveur et d'une personne qui vont, du coup, transformer son être pour lui donner une autre source de fécondité. Et c'est un peu ce genre de registre, si vous voulez, qu'on a ici, près d'un puits, et les filles, les rejets, franchissent le mur. Alors ensuite, on va avoir là, dans le verset 24, hein, par la force de l'indomptable de Jacob, par le nom du pasteur, verset 25 plutôt, par elle, ton père. Donc là, il y a l'idée, elle, c'est le nom de Dieu, le Dieu fort, en fait, c'est le Dieu fort, c'est le Dieu, le côté... peut-être très masculin de Dieu, justement, hein, le « elle, ton père ». Là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis « qu'il te vienne en aide », alors que c'est simplement un futur, c'est une promesse, hein, « il te viendra en aide ». Par le Dieu puissant, il te bénira, et alors après, il y a des bénédictions qui sont très féminines, si vous voulez. Hein. Bénédiction des cieux d'en haut, bénédiction de l'abîme étendue sous terre, c'est une bénédiction donc mouillée de l'eau, bénédiction des mamelles et du sein maternel. Donc ça donne un côté très féminin à Dieu. Alors la question, ça a été très débattu, de savoir Dieu puissant. Souvent, c'est traduit dans nos... Alors là, c'est la nouvelle Tobe, en fait, qui met Dieu puissant. Longtemps, dans la Tobe, ça a été Dieu tout puissant, et dans beaucoup de traductions. La Jérusalem évite cet écueil en mettant Dieu Shaddai, ce qui effectivement rend bien compte, en fait, de l'embarras de ces traducteurs pour ce terme de Shaddai, dont on ne sait pas exactement comment le traduire. Quel est le problème, si vous voulez? C'est que le mot Shaddai, en fait, ça peut vouloir dire deux choses différentes, parce que ce mot hébreu, c'est, en fait, il n'y a pas beaucoup de lettres en hébreu. Il n'y en a pas beaucoup, déjà. Il y en a 22, je crois. Mais en plus, les racines font que deux lettres, voire trois lettres. Alors, on a vite fait le tour. Le fait est que Shaddai, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut soit vouloir dire... Ça peut venir de Shod, le ravage... qui détruit, qui ravage. Alors ça peut être le cas, on peut imaginer un Dieu qui ravage, qui détruit le mal, qui détruit la méchanceté, qui détruit... Ouais, ça peut être le cas. Et c'est parfois, on a ce Dieu Shaddai, chez les prophètes, par exemple, Isaïe, Ézéchiel, Joël, moi j'ai trouvé la quatre occurrences, par exemple, chez les prophètes, où on parle, il vient comme un ravage du Shaddai. L'Éternel est proche. Il y a par exemple Isaïe 13,6, « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Shaddai. » Alors le ravage, c'est Shod et du Shaddai. Alors, mais ça, vous voyez, c'est dans les prophètes tardifs. Alors que dans la Genèse, quand on regarde, c'est une autre étymologie. Shad, en fait, c'est le sein maternel. Et d'ailleurs, quand il y a marqué ici... les bénédictions des mamelles, en fait, c'est Shaddaïm, c'est-à-dire c'est le Shad au duel, au pluriel, il y a un pluriel spécial quand il n'y a que deux choses. Donc là, c'est Shaddaïm, les mamelles, les seins, en fait. Et donc là, c'est une autre étymologie, c'est pas, ça s'écrit exactement pareil, c'est pas le ravage, mais c'est les seins. Et effectivement, quand on regarde la Genèse, il y a, en fait, c'est vite fait, on a vite fait le tour, il y a sept occurrences de El Shaddai, de Dieu Shaddai dans la Genèse. Hein. Et les sept fois, il est question de fécondité. Donc, c'est dire le match est vite compté. Genèse 17:1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel parut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Shaddai, marche devant ma face et sois parfait. » C'est au moment de la renouvellement de l'Alliance. Et c'est quand il va annoncer que l'année d'après, ils auront un fils qui sera Isaac. Donc c'est vraiment le Dieu de la fécondité qui fait qu'un papy de 99 ans et une mamie qui était guère plus jeune, qui en avait 75, je ne sais pas quel âge elle avait, Sarah, à cette époque-là. Oui, elle n'était pas la jeunette, elle n'était pas la poulette de l'année, hein, c'était... Il avait déjà un peu d'âge, eh bien, ils vont avoir un enfant l'année d'après. Donc, c'est vraiment le dieu Shaddai, c'est le dieu de la fécondité, en fait. Genèse 28, 3, que le dieu Shaddai te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Voilà, c'est clair. Genèse 35, 11, Dieu lui dit, je suis le dieu Shaddai, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi et les rois sortiront de tes reins. C'est toujours le dieu de la fécondité. Genèse 43, 14, c'est pareil. Genèse 48, 3, Jacob dit à Joseph, le Dieu Shaddai m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, il m'a béni, il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai. Et Genèse 49, 25, c'est celui qu'on a là. Donc si vous voulez, dans la Genèse, c'est le Dieu Shaddai, c'est le Dieu qui est de la fécondité, le Dieu aux mamelles qui enfante et qui nourrit ses enfants. Alors que chez les prophètes tardifs, c'est plutôt le dieu qui ravage, le dieu vengeur, le dieu très masculin, qui vient appliquer la justice, qui tranche et qui élimine le mal. D'où le... Parce que si vous voulez, le sens des mots hébreux, c'est le texte de la Bible qui fixe le sens. On n'a pas un dictionnaire qui nous est tombé du ciel comme ça en disant « voilà ce que veulent dire les mots ». On le sait un peu plus maintenant parce qu'on a fait des fouilles, on a appris à lire l'égyptien, ce qui est relativement récent, on a appris d'autres langues sémitiques, on connaît l'arabe, on connaît un certain nombre de langues. Mais sinon, pour l'hébreu, c'est difficile parce qu'en fait, on n'a que la Bible pratiquement. Le corpus de l'hébreu se limite à la Bible et à la Bible, c'est tout. Alors, donc, si un mot n'apparaît qu'une fois, on essaie de deviner ce qu'il veut dire. Bon, là, il apparaît... cette fois dans la Genèse et puis plein d'autres fois dans la Bible. Donc on essaye de faire un champ sémantique du mot Shaddai. Mais quand il y a une telle dispersion, du coup les traducteurs sont coincés. Alors soit ils tranchent en disant, quand on met Dieu Tout-Puissant, alors en tout cas il n'y a pas le mot tout, ça c'est clair. On pourrait dire peut-être Dieu Puissant. D'accord, ça peut se défendre avec le Dieu puissant, le Dieu vengeur qui élimine le mal, etc. C'est vraiment le Dieu qui applique avec force, avec puissance, sa volonté, sa justice dans le monde. Donc je veux bien qu'on traduise Dieu puissant, comme la Tob maintenant, et comme la plupart des traductions modernes. Quand ils mettent Dieu Shaddai, Dieu tout-puissant, c'est explicitement un mensonge en fait. Il n'y a pas marqué Dieu tout-puissant, et cette idée d'un Dieu tout-puissant, en fait, c'est un fantasme qui a été malheureusement promu par les théologiens et par les de siècle en siècle, mais sur influence, à mon avis, de la théologie grecque, avec un Zeus, Pantocrator, très puissant, qui peut tout. Mais c'est de la théologie grecque, c'est pas de la théologie biblique. Quand il y a Dieu Tout-Puissant explicitement, c'est uniquement dans des passages qui parlent de la fin des temps, c'est-à-dire d'un temps où... Comme dit Paul, toutes choses lui seront à ce moment-là soumises. Effectivement, Dieu aura tout en main, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Il y a encore du chaos dans l'univers, nous on en fait un peu qu'à notre tête, donc non, Dieu est loin d'être tout-puissant actuellement. Et à mon avis, c'est l'idée de Dieu tout-puissant, en particulier autour de ce terme El Shaddai, ça fait des ravages terribles. Ça n'a jamais, à mon avis, fait plus d'athées que les plus militants des athées. Parce qu'on a vendu du Dieu tout-puissant, actuellement tout-puissant, je veux dire. On a vendu ce concept dans un certain sens pour... c'est là que Marx a un peu raison. C'est un peu de l'opium du peuple en disant « Voilà, j'ai les clés dans mes mains de la toute-puissance de Dieu. Venez me voir, venez bien tous les sagement tous les dimanches et quelque part, je vous en ferai bénéficier. » Donc, c'était un argument marketing qui permettait d'utiliser la menace et puis la promesse qu'on va mettre notre puissance, puissance de l'homme, au service des masses. Voilà. À mon avis, c'est vraiment de la manipulation. Ça n'est pas dans le texte, de toute façon. La puissance de Dieu, c'est une puissance de tendresse et de compassion. C'est bien ce qu'on voit en Jésus-Christ, si vous voulez. C'est quand même fou qu'il soit arrivé à nous vendre ça. Et heureusement, les traductions, effectivement, la nouvelle Taube, donc, est sortie l'année dernière, ils ont enlevé tout puissant pour mettre puissant. C'est le cas de la nouvelle Seconde, c'est le cas d'un tas de Bibles maintenant, et de la Jérusalem, qui renonce à mettre tout puissant, voire même puissant, pour mettre Shaddai, ce qui est, à mon avis, une sagesse quand même. Alors, là, je crois qu'on est d'accord aujourd'hui, les théologiens, pour dire Dieu n'est pas tout puissant dans le temps présent. C'est une puissance d'amour qui pleure quand les humains font n'importe quoi, mais qui ne peut pas faire que... qui ne peut pas créer de force un être libre et généreux. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça.
Oui, c'est comme le père castrateur hein, que j'évoquais au début, qui est aussi la projection de nos fantasmes, le Dieu tout-puissant, qui peut d'ailleurs, à force d'être tout-puissant, devenir un despote tyrannique qui n'a de compte à rendre à personne. Un despote qui n'est même pas éclairé, d'ailleurs, parce que voilà, le Dieu de la Bible, on peut en faire une lecture aussi très, très archaïque et ne pas voir précisément le visage de tendresse et le visage de père aimant, d'un amour empressé qui se révèle. Donc, effectivement, le rêve de la toute-puissance, c'est un rêve païen, c'est l'idée d'une intervention sans intermédiaire dans l'histoire, sans médiation, hein. Une intervention magique, en fait, puisque la magie, c'est ça. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de relais pris par l'humanité. Ce serait donc un dieu totalement fantasmatique qui pourrait intervenir comme ça, au mépris des lois qu'il a lui-même données à sa création. Et évidemment, on n'est pas très loin de ce que les Grecs appellent l'hubris, hein, cette espèce de démesure, cette espèce d'ivresse dans le pouvoir, un pouvoir qui peut être surtout porteur de mort plus que de vie, puisque la vie est toujours, je pense au chant du serviteur souffrant, hein, il ne flétrira pas le roseau froissé, etc. Le Dieu que nous annonçons, que nous découvrons dans la Bible, est un Dieu non seulement patient, mais un Dieu extrêmement délicat, évidemment. Alors, en t'entendant parler tout à l'heure de l'humide et du fécond, je pensais au yin et au yang, bien sûr, qui sont aussi deux pôles, deux principes explicatifs. Effectivement, d'un côté, il y a le Dieu qui casse, qui ravage sa création, le Dieu solaire, le Dieu sec. Et puis, de l'autre, il y a cette polarité plus nocturne et plus féconde aussi et ouverte à la vie et qui retisse patiemment comme une mousse qui retisse la vie. Alors, la plante luxuriante, évidemment, je ne sais pas quel est le mot hébreu, mais c'est cette luxuriance qui mime la luxuriance même de Dieu, qui est au sein de Dieu, un Dieu à la libéralité infinie, donc un Dieu à la générosité infinie, un Dieu qui ne cesse de prodiguer, un Dieu en excès, un Dieu qui donne sans compter, un Dieu qui crée, qui engendre, qui enfante, sans mégoter, sans calculer, sans entrer dans nos schémas, dans nos plannings, dans nos... Voilà, donc un Dieu, effectivement, qui ne cesse d'engendrer, pas seulement au début, c'est pas seulement le Dieu des origines, c'est pas l'ancêtre, c'est le Père qui est là à chaque instant, qui n'est pas juste... Au début de la chaîne, qui n'est pas seulement le point alpha, mais qui est tout l'alphabet jusqu'à l'oméga. Et alors, cette idée, effectivement, de la bénédiction de Joseph, parce que je vous rappelle que c'est un texte, on ne l'a pas tellement mis en contexte, mais c'est ce texte extraordinaire où Jacob bénit chacun de ses 12 fils, donc ce qui va donner les 12 tribus. Il y a d'abord Judas, et puis vient à la fin Joseph, puisque Benjamin n'est pas encore né. Benjamin sera le dernier, et le deuxième fils de Rachel. Mais au fond, Joseph, qui va avoir le rôle que vous savez, qui va être finalement le préféré, il perturbe aussi la généalogie classique. Certes, il est le fils premier-né, mais pas le fils premier-né de Jacob. Il est le fils premier-né que Jacob a eu avec Rachel. Et Jacob a eu ses autres enfants avec Léa et avec ses concubines, avec ses servantes. Mais finalement, Joseph, le fils premier-né d'après Rachel et le fils préféré, est aussi celui qui, dans la logique patriarcale, celle d'Ésaü et Jacob, ne doit pas recevoir la bénédiction, ne doit pas la recevoir avec une plénitude aussi grande que Judas. Judas qui est vraiment le premier-né, qui va donner son nom au peuple, d'ailleurs le peuple juif, hein, c'est l'héritier de la tribu de Judas, de l'apanage de Judas. Judas qui est un jeune lion. Joseph, lui, est une plante luxuriante. Hein. Alors, est-ce que comme chez Caïn et Abel, il y a une opposition du monde animal et du monde végétal? Je ne suis pas suffisamment spécialiste.
Non, mais il n'y a pas plante, en fait. Il y a marqué juste « fils de la fécondité » et c'est le même mot que « fécond, soyez fécond » dans 1,28.
Oui, mais le champ lexical évoque quand même, comme tu disais, comme le psaume 1, c'est-à-dire le juste planté au bord de l'eau.
Oui, enfin, c'est ça.
Il y a quand même une métaphore. Parce qu'il y a plan,
près
en tout
source,
cas, c'est pas le monde animal.
C'est ça, oui, oui. À cause de près d'une source, c'est ça. Oui, oui, tu as raison, d'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la bénédiction se transmet à Joseph. Et comme je le disais, hein, depuis Abraham, donc depuis le grand-père, quand même, l'élan de la foi, c'est de s'arracher à la maison paternelle, à la tente paternelle, hein, au Heimat, comme dirait le philosophe Heidegger, c'est-à-dire à la patrie. Il s'agit de quitter la patrie, il s'agit de s'exiler, et la foi est un processus presque de migration. Et ici, d'une certaine manière, Dieu reste fidèle à cet arrangement. Il s'agit de quitter la maison du Père pour recevoir... La maison des bénédictions n'est plus la maison des bénédictions. Abraham ne reçoit pas la bénédiction à Ur en Chaldée, mais il doit aller vers le pays des promesses. Eh bien, ici aussi, celui qui est consacré, vous voyez, hein, que la bénédiction vienne sur la tête de Joseph, c'est le dernier verset, sur la chevelure du consacré. Le consacré, c'est le nazir, hein, le naziréa, c'est cet état de consécration. Effectivement, on leur rasait la chevelure. Hein. Donc on peut voir dans Joseph, effectivement, déjà une forme de personnage mis à part, de consacré, et qui déjoue la filiation hiérarchique habituelle, comme David déjouera aussi la hiérarchie de la fratrie. Donc vous voyez un Dieu qui se coule dans la logique clanique patriarcale, mais qui subvertit ça. C'est effectivement, vous savez, le concile de Chalcédoine nous invitait à distinguer sans séparer. Donc effectivement, il ne faut pas séparer l'engendrement spirituel de l'engendrement biologique, jamais. Mais c'est autre chose. Et effectivement, le père qui se révèle en Dieu est plus un père de l'adoption qu'un père de la procréation et de la génitalité. C'est un père qui recrée une vie nouvelle, qui recrée une nouvelle alliance. Et la paternité de Dieu est une nouvelle alliance. C'est cette vie nouvelle que le Christ lui-même révélera.
Donc là, on a une bénédiction du Père, en fait, avec cette hein, qui vient en aide, et puis une bénédiction maternelle qui nourrit et qui voilà. Donc je crois qu'on a cette double bénédiction du Père et de la Mère ici, et je crois que c'est quand même assez remarquable. Alors Deutéronome 32, on va retrouver aussi en fait le Père et la Mère. Alors je ne sais pas si on lit tout ce grand passage, parce que c'est peut-être un peu long, mais on regarde au verset 6. Hein. Une façon de traiter le Seigneur, peuple fou et sans sagesse, n'est-ce pas lui, ton Père, qui t'a donné ta vie? C'est lui qui t'a fait, donc qui t'a conçu en fait, hein, parce que là c'est le même mot que quand Ève dit « j'ai conçu un enfant avec l'Éternel ». Quand elle a son premier enfant, donc qui est Caïn. Hein? Donc, qui t'a conçu, qui t'a fabriqué et qui t'a établi, voilà. Alors ensuite, il y a au verset 11, hein, « Il est comme l'aigle qui encourage sa nichée, il plane au-dessus de ses petits, il déploie toute son envergure, il les prend et les porte sur ses ailes. » Donc, Dieu est comparé à une aiglonne, finalement, hein, qui couve ses enfants. Alors ensuite, au verset 15... Yeshurun s'est engraissé, mais il a rué, tu t'es engraissé, tu as grossi, tu t'es épaissi. Bon, merci pour le... C'est vrai que j'ai pris 3 kilos pendant les vacances. Bon. Il a délaissé Dieu qui l'avait fait. Donc là, c'est vraiment... c'est un peu le qui l'a conçu, l'a fabriqué, qui l'a fait comme un père et une mère. Ça c'est encore assez sans sexe, ça. Hein. Au verset 18, ça devient un peu plus tranché, en fait. Hein. Le rocher. Alors que c'est souvent un verbe, enfin un nom qu'on qualifie Dieu de rocher, c'est-à-dire que c'est vraiment la stabilité, la force. Hein. Le rocher qui t'a engendré. Alors là, c'est carrément le verbe engendrer comme une... Hein, alors c'est vrai que ça, c'est pas forcément spécifique de la femme, parce qu'on peut dire hein, que dans les généalogies, hein, David engendre Salomon. Bon. Mais enfin, c'est vraiment père-mère, en fait. C'est la, voilà, c'est les parents. Hein. Tu l'as négligé. Tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Bon, là, c'est quand même plus délicat. Si vous voulez, pour la question du père, c'est vraiment la mère, là. Hein. Dieu qui t'a mis au monde. Ce que le Seigneur a vu, a excité son mépris. Ses fils et ses filles l'ont offensé. Donc là, vraiment, il y a explicitement le Dieu père et mère, voilà, finalement, hein, qui est proposé ici. Voilà. Alors bon, effectivement, avec engendré, c'est le Dieu père-mère. Tu l'as oublié, le Dieu qui t'a mis au monde, c'est vraiment explicitement le Dieu mère qui est ici, qui est proposé. Le verset 10. Il veille sur lui comme la prunelle de son œil. Mais alors, c'est assez maternel. Cela dit, c'est veiller, ça pourrait être un tuteur, ça pourrait être un quelqu'un qui accompagne, ça peut être un berger finalement. On dit le berger qui veille sur sa brebis comme la prunelle de son œil. Voyez. Donc là, ça peut être. Il n'y a pas l'idée d'engendrement. Ça peut être l'idée vraiment, oui, mais ça, je suis d'accord, c'est le Dieu berger, ça peut être un peu le berger d'Israël.
Autre image de l'Alliance, d'ailleurs.
Autre image de l'Alliance, d'ailleurs. Oui.
Mais effectivement, merci de signaler le verset 10, parce que je suis allé voir dans d'autres traductions, et je n'ai pas fait le travail d'aller voir sur le texte hébreu à cet endroit-là, mais j'ai vu que dans la Bible, je crois que c'est dans la Bible de Jérusalem, il faudrait que j'aille voir... il rencontre son peuple au pays du désert, vous voyez le verset 10, devient il adopte son peuple. Donc vous voyez, le mot hébreu ici va plus loin que la simple rencontre fortuite. Hein. C'est le Dieu qui crée une paternité nouvelle, un Dieu qui restaure une paternité qui a été mise à mal par l'infidélité et l'idolâtrie. Alors effectivement, hein, ce chapitre 32 du Deutéronome, qu'on appelle quelquefois le psaume de Moïse, parce que c'est un... Je vous invite à lire tout le texte, d'ailleurs c'est très très beau, il s'agit bien d'un psaume qui fait le récit des mirabilia dei, hein, des merveilles de Dieu, mais c'est un texte qui date de la période d'après l'exil, donc on est à la fin du VIe siècle, et le Deutéronome est typique de ce qu'on appelle la théologie deutéronomiste. La théologie deutéronomiste est très importante parce que c'est elle qui régit les deux livres de Samuel et les deux livres des rois, à savoir que la fidélité des rois est vue en termes de fidélité au Dieu d'Israël ou au contraire d'abdication face aux idoles. Hein, ce qui permet de juger, vous savez, cette galerie des rois, cette galerie de portraits, Ézéchias, Josias, etc., ce qui permet de les juger, c'est leur fidélité au culte d'Israël. Et le Deutéronome, d'ailleurs, va même, la théologie, les théologiens deutéronomistes vont centraliser le culte à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Jusqu'au Deutéronome, il y avait des temples un peu partout, à Sichem, à Bethel, à Dan, à Megiddo, à Silo, puisque c'est le lieu de la vocation de... Silo, c'est la vocation de Jérémie ou... Enfin, il y avait d'autres temples, effectivement. Oui, oui. Et à partir du Deutéronome, on va vraiment centraliser tout à Jérusalem et passer l'histoire d'Israël au crible de l'idolâtrie. Et donc, effectivement, ce texte, du coup, devient un texte un petit peu fondateur. C'est Moïse qui parle. C'est Moïse qui parle des idoles au désert, des idoles pendant l'Exode, du veau d'or, etc., de l'infidélité d'Israël. Mais en fait, les écrivains écrivent 6 siècles après Moïse. Donc en fait, ils relisent toute l'histoire d'Israël, toutes les chutes, les rechutes, les infidélités d'Israël. Et qu'est-ce qui apparaît ? C'est que Dieu est père. Et c'est le texte de l'Ancien Testament, où la paternité de Dieu est le plus fortement affirmée. Il y a même, on considère que par trois fois, la paternité de Dieu est affirmée de manière extrêmement martelante, particulièrement forte. Pourquoi ? Parce que précisément, on sort d'un temps d'épreuve. Hein, cet exil a pu être appelé la Shoah, d'ailleurs, hein, la catastrophe totale, puisque le temple avait été ruiné, etc. Donc il s'agit de relire l'histoire du peuple d'Israël en montrant que Dieu est père, mais il n'est pas père au sens où il serait père parce que, au nom du culte des ancêtres, vous savez, dans toutes les religions, il y a un culte des ancêtres, et au fond, le premier de tous les ancêtres, ce serait Dieu, hein. On remonterait comme ça jusqu'à Adam, et puis avant Adam, qui trouve-t-on ? C'est Dieu. Bon, non, il n'est pas père dans ce sens-là. Il n'est pas père au sens ici généalogique ou chronologique. Il est père parce qu'il restaure. Il restaure la filiation brisée. Il est père parce qu'il est le roc. Il est celui qui ne change pas. Sa paternité est inébranlable, elle est invariable. Les hommes, eux, sont changeants. Mais la paternité de Dieu, elle est toujours là. Et donc, ce n'est plus une paternité de procréation, mais une paternité légale, avec le don de la loi, la Torah. C'est-à-dire une paternité d'adoption. Une paternité devant la loi, et plus seulement une paternité des entrailles. Mais une paternité, ici, qui est scellée par la loi. Et c'est très important, parce que dans le peuple hébreu, cette paternité légale, cette paternité d'adoption, elle existe. Et c'est celle qui fait de l'enfant l'héritier. Donc c'est une paternité qui permet l'héritage, qui permet de devenir un héritier. Vous savez, les hommes pouvaient avoir de nombreux enfants avec des concubines. Et ces enfants, qui étaient des enfants illégitimes, ne devenaient pas héritiers. Donc la paternité biologique ne suffit pas à engendrer aux promesses et à la nouvelle filiation. Donc ce texte est absolument fondamental parce qu'il est assez tardif, au fond, la théologie deutéronomiste est assez tardive, et c'est une confession sans équivoque de la paternité de Dieu, mais pas une paternité au début, c'est pas le culte des ancêtres, encore une fois, c'est une paternité légale, une paternité garantie par l'alliance de la loi, et une paternité qui fait d'Israël l'héritier des promesses, l'héritier de l'élection, l'héritier des patriarches.
Mais alors là, avec l'engendrement et la mise au monde, on a quelque chose qui complète un peu ça. C'est-à-dire, c'est... Non ? Parce que là, il y a quand même explicitement... Bon, il y a effectivement le Dieu Père... voilà,
il est les deux.
Il entoure, il instruit, il veille sur lui. Donc il y a ça, on pourrait dire, voilà, c'est le Dieu qui...
Prévenant,
est-ce qu'il donne la loi et qui devient comme Père comme ça. Mais à la fin, quand il y a le Dieu... il t'a engendré, il t'a mis au monde, c'est quand même là beaucoup plus un engendrement et un accouchement, finalement, qu'une adoption, quand même, je ne sais pas.
Hein. Le rocher...
Le rocher ?
Le rocher, c'est souvent... Il me semble que c'est une métaphore de la vérité. C'est souvent lié à Emet, la vérité. Emet, vous savez, dont la racine a donné aussi « Amen ». C'est-à-dire amen, c'est-à-dire ce qui est ferme, ce qui est solide. Là, on est du côté d'ailleurs du masculin. Cette solidité, effectivement, elle est celle d'un père qui est l'éducateur, qui est celui à qui on fait confiance, à qui on se remet. Effectivement, et quand je parle de paternité d'adoption, je ne parle pas de paternité contractuelle. Une paternité qui serait abstraite, qui finalement n'aurait aucun... qui serait une affaire de papier. Non, il s'agit bien, au fond, pour le père, pour le géniteur, d'entrer dans une nouvelle paternité avec son peuple. Mais au fond, c'est le même. C'est celui qui procrée qui est aussi le donateur de l'adoption. C'est le même. Mais simplement, on peut le voir comme celui qui est le père naturel, celui qui a créé le monde, et puis, en même temps, un père qui n'est pas lié par par les lois vitales, par le vitalisme, par le flux vital, mais un père qui crée autrement que par les lois du sang. Mm-hmm. Quelquefois, on parle de rédempteur dans ce, pour parler de ce Dieu. J'ai cru voir d'ailleurs. Non, c'était dans un autre texte.
Mais racheter à qui, en fait? C'est ça la question. C'est qu'en fait, souvent, le problème de cette idée de rachat, si vous voulez, c'est qu'on tombe dans un type de justice qui est quand même assez problématique. C'est plus une logique à ce moment-là. C'est une logique qui est basée sur le donnant-donnant, l'idée du rachat, et c'est toujours peu délicat. Quoi ? C'est moins la grâce, quand même, alors qu'effectivement, la notion de fidélité qu'on a ici, quand même, et qu'on retrouve aussi dans Exode 34, qui est tout à fait en lien, puisque c'est, voilà, après cet épisode, ce grand psaume de Moïse, eh bien, Moïse va voir Dieu de dos. Et en passant, il y a cette incroyable tirade, si vous voulez, où Dieu se présente. Et il y a là une théologie du Dieu qui est absolument formidable. Hein. Donc le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom du Seigneur, de Yahvé, voilà, hein, du Dieu source de l'être. Le Seigneur passa devant lui et il proclama, Yahvé, Yahvé, le Dieu miséricordieux, le Dieu à la tendresse matricielle, hein, donc le Dieu de l'utérus, bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Alors c'est vrai qu'en hébreu, fidélité et vérité, c'est le même mot. Hein. C'est pas une vérité au sens au sens conceptuel ou au sens de que c'est vrai et c'est faux. Non, c'est plutôt au sens de je suis fidèle, c'est-à-dire je reste attaché, je reste favorable, je ne change pas. Et c'est vraiment une vérité de relation, si vous voulez. C'est pas une vérité conceptuelle. Eh bien, c'est bien ça qu'on a là. Et oui, le rocher, c'est bien ça. C'est un rocher, c'est-à-dire qu'il ne vous lâche pas.
Oui. C'est-à-dire que la coupure du texte est peut-être, effectivement, si vous allez voir le texte, c'est comme dans les psaumes, c'est-à-dire que le pessimisme n'a pas le dernier mot. Et ensuite, il y a une remontée. Vous savez, dans les psaumes, vous avez ça sans cesse. Dieu s'en prend à l'homme, il cède aux imprécations, Dieu, tu nous as quittés, voilà. Et puis, mon salut est dans le Seigneur, jour après jour, je dirais ses merveilles. Et donc, il y a une remontée. Et là, c'est le cas. C'est vraiment une construction psalmique. Hein. Si vous voyez le texte dans sa majesté, comme disait Madame de Sévigné, eh bien, vous verrez qu'il y a une espèce de confiance et que, finalement, l'amour paternel, c'est aussi un amour. L'amour paternel n'est pas un amour aveugle, c'est un amour, c'est une autorité. Au sens où l'autorité, l'autoritas, c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui autorise. Hein, l'autorité autorise l'autre à vivre. Elle ne l'opprime pas, elle le tire vers le haut, elle l'enfante sans cesse. L'autorité augmente. Hein, c'est le même mot en latin, autoriser, augmenter. Donc on est du côté de la croissance, de la vie qui germe. Donc, l'autorité dit aussi ce qui est mal. Elle ne convertit pas le mal en bien. Elle ne convertit pas l'infidélité en fidélité. Il ne s'agit pas de faire table rase de la loi. La loi perdure. On n'abandonne pas la loi parce qu'elle est trop dure. Voilà. L'autorité n'est pas forcément autoritariste, mais effectivement, c'est un Dieu qui n'est pas fusionnel avec son peuple. C'est un Dieu précisément là qui est masculin au sens où il se méfie de la trop grande proximité. C'est un Dieu qui est présent-absent. C'est le Dieu du temple, hein. Présent-absent. C'est le Dieu que révélera la parabole du père de l'enfant prodigue. C'est-à-dire un père patient qui est absent d'une certaine manière mais qui est présent complètement. Mais il est patient, il attend. Mais il ne convertit pas l'infidélité ou la faute en, en bien. Il ne transforme pas, ce n'est pas un Dieu pervers qui transforme le mal en bien ou qui efface l'addition. Il restaure, il remet de la vie là où la vie semblait être rompue, mais il ne transforme pas l'infidélité en fidélité.
Oui, alors effectivement, après, c'est une question de pédagogie. C'est face à l'infidélité de l'homme, bon, ben là, la pédagogie, elle peut être discutable, de se dire, voilà, je vais laisser se dépapoutouiller, puis on va voir s'ils se mettent à croire en Dieu après, finalement. Hein. C'est la question, hein, un petit peu, c'est savoir comment, quelle pédagogie, ensuite, il va déployer pour les accompagner dans le bon sens. Alors après, nombre 11... On a un peu le même registre, hein, c'est exactement la même chose. Hein, au verset 12, c'est Moïse qui discute, parce que là, les Hébreux demandent de la viande, alors ils sont en colère. Alors le Dieu dit, bon, écoutez, pourquoi vous vous rébellez contre moi? Et alors il y a Moïse qui dit, bon, ben, écoutez, il ne faut quand même pas nous en vouloir, moi je fais ce que je peux, c'est difficile. Et alors il y a Moïse qui discute finalement, hein, qui dit quand même, là tu exagères, est-ce que c'est moi qui ai conçu tout ce peuple, moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, ben, porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte son petit enfant et débrouille-toi pour leur trouver de la viande. Il dit, mais comment je vais faire moi? Et l'air de dire, bon écoute, à Dieu, c'est toi qui l'as conçu ce peuple, c'est toi qui l'as mis au monde, ben, débrouille-toi pour leur donner de la viande et les accompagner. Et ça, je trouve que c'est assez amusant, si vous voulez. Mais il n'y a pas dit explicitement que c'est Dieu qui a mis au monde et qui a conçu. C'est un peu marqué, c'est un argument de Moïse, c'est pas si clair. Hein. Alors dans la louange de Moïse, psaume 90, là c'est Dieu aurait enfanté finalement le monde entier, l'univers, finalement, avant que les montagnes naissent et que tu enfantes la terre et le monde depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Voilà, donc ça, c'est explicitement, donc c'est un Dieu qui enfante le monde. Ça, c'est vraiment naître, c'est concevoir, donner la vie, engendrer, et puis enfanter, c'est vraiment l'accouchement. Et l'accouchement, on va le voir bien dans Ésaïe 42, là, on voit carrément Dieu en train d'accoucher, en fait, à la fin, au verset 14. Hein. Alors qu'au début, c'est quand même plus le Dieu masculin, le Dieu guerrier, hein. Le Seigneur, tel un héros, va sortir, tel un homme de guerre. Il réveille sa jalousie, il pousse un cri d'alarme, un grondement, et contre ses ennemis se comporte en héros. Donc là, c'est la parole de Dieu, voilà, rien qu'au son de la parole de Dieu, le mal, le chaos, l'angoisse, ils partent en déroute tellement ils ont peur de cette voix de Dieu qui est donc qui est forte. Hein. Et puis au verset 14, « Je suis depuis longtemps resté inactif, je ne disais rien, je me contentais comme une femme en travail, une femme à l'accouchement, je gémis, je suffoque, je suis oppressé tout à la fois. » Donc là, on sent un peu la respiration, finalement. Alors d'abord, ça passe à la première personne, ce qui est toujours rigolo. Il y a toujours ces basculements, hein, qu'on peut voir dans beaucoup de textes bibliques entre le...
Dans les psaumes.
Dans les psaumes en particulier. Hein. C'est-à-dire des fois, on s'adresse à Dieu à la deuxième personne, il est là présent, et puis après on a une méditation à la troisième personne sur Dieu, et parfois on donne la parole à Dieu. Donc là c'est le cas, on présente Dieu comme un côté très masculin au début, son cri, sa parole est source de frayeur et de déroute, est une arme finalement pour l'emporter sur le mal. Et puis après, finalement, ce qu'il fait entendre, c'est simplement ce allaitement d'une femme en train d'accoucher. Et ça, c'est un autre son qu'il fait entendre. Et ça fait penser ça, mais peut-être un peu aussi, hein, comme le psaume 90, à un engendrement du monde, un monde nouveau. Ça, on l'a aussi dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, hein, Romains 8, 22, où... la création tout entière soupire des douleurs de l'accouchement. Il y a l'idée d'un monde nouveau qui est en train de naître. C'est vraiment une vision donc de la fin du monde, de la fin des temps, une vision eschatologique, on dit en termes techniques. C'est ce qu'on a un peu là, sauf que là, c'est Dieu lui-même finalement qui est en train d'accoucher d'un monde nouveau. Voilà, d'un monde nouveau. Donc il y a Il y a Dieu qui agit contre le mal avec force, et puis il y a aussi Dieu qui accouche d'un monde nouveau. Il y a un peu encore les deux termes. Et là, quand tu disais, voilà, il y a la justice, et puis il y a aussi la tendresse et la fidélité de Dieu, ou alors souvent amour et vérité aussi qui s'embrassent. Il y a le côté, finalement, Dieu qui lutte contre le chaos, qui lutte avec puissance pour enlever le mal, pour nous purifier, pour purifier le monde. Il y a cet effort, finalement, de un peu quand même négatif, hein, d'éliminer, de détruire le mal, la souffrance, la mort, la haine, l'injustice. Et puis, il y a une action aussi positive de Dieu pour faire naître, nous donner un cœur de chair, pour mettre de l'harmonie, de la beauté dans le chaos du monde. Donc il y a à la fois les deux actions de Dieu, voilà, une action de justice et puis une action de tendresse, d'engendrement, de création.
Alors ces textes d'Isaïe ou d'Ésaïe sont du deuxième Isaïe en fait, hein, ce qui à partir du chapitre 40 relève de ce que l'on appelle donc le Deutéro-Isaïe, ou « Livre de la consolation d'Israël »,« Consolez, consolez mon peuple ». C'est le début. C'est d'ailleurs le premier air du Messie de Handel, hein, ce qui prouve que ça a beaucoup hanté l'imaginaire occidental, hein, ce livre de la consolation. Hein. « Comforting my people »,« Consolez mon peuple ». Donc c'est quelque chose de très maternel, effectivement. Et ce deuxième Isaïe, qui est écrit à la fin de l'exil, au moment où le peuple hébreu entrevoit un destin possible, un avenir possible, qu'un avenir va peut-être s'ouvrir, qu'au fond cet exil n'est pas une fatalité, mais qu'il est peut-être une parenthèse dans leur histoire, et une parenthèse qui les a forcés à un gros travail théologique, puisqu'on pense que c'est pendant l'exil que le Dieu de la tribu, le Dieu d'Israël, est devenu, dans la pensée religieuse des prophètes, des prêtres, des docteurs de la loi, est devenu le Dieu universel. Hein, on pense que c'est à ce moment-là que la monolatrie, c'est-à-dire le Dieu du peuple, est devenu monothéisme, est devenu... Il y a eu effectivement cet effort de la pensée gigantesque. Le Dieu d'Israël peut-il être vaincu par les dieux babyloniens? Voilà, le temple est détruit, le peuple est emmené en exil. Est-ce que ça veut dire que Marduk ou Ishtar sont plus puissants que Adonai? Eh bien, il y a tout un travail de relecture qui est fait, et on découvre que ce Dieu, au fond, est aussi le Dieu de tous les peuples et le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et simultanément, ce Dieu qui devient tout d'un coup beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, au-dessus de tous les dieux, simultanément, et c'est peut-être d'ailleurs le travail de la polarité religieuse, de rééquilibrer là où on est peut-être dans le grandiose et l'excès d'universalité de ce Dieu qui se révèle au cours de l'exil, eh bien, simultanément, on a besoin de le voir comme très proche et de le voir comme un père. Et effectivement, pendant cette épreuve, pendant cet exil, les patriarches ne servaient à rien. On avait beau invoquer, on peut invoquer tous les saints du paradis, on peut invoquer Abraham, Isaac et Jacob, ils sont morts et enterrés depuis bien longtemps, et leurs tombeaux sont restés d'ailleurs en Palestine. Alors que, précisément, celui qui est père, et qui n'est pas seulement père avant les patriarches, mais qui est père toujours, se révèle évidemment fidèle à son peuple, malgré les preuves, malgré les ruptures, malgré la mort, malgré le triomphe de la désespérance, le chaos. Eh bien, ce Dieu-là ne cesse d'être auprès de son peuple. Alors évidemment, on voit bien qu'on chemine vers le Dieu qui va se révéler comme le Père du Fils en Jésus-Christ, c'est-à-dire le transcendant, le tout autre, le très lointain, qui va devenir le tellement proche qu'il est plus intime à moi-même que moi-même.
Donc là, le réconfort dont tu parlais, voilà, le Dieu qui réconforte, on l'a très, d'une manière très présente, hein, dans ces passages. avec cette figure très, très maternelle. Hein, 49-13, voilà, le Seigneur réconforte son peuple à ses humiliés, il montre sa tendresse. Ben, sa tendresse, c'est encore la raham, c'est-à-dire c'est la miséricorde maternelle, la miséricorde de l'utérus. Hein. La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse, sa raham à l'enfant de sa chair? Même si celle-ci oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. C'est-à-dire que Dieu est la mère idéale, la mère par... c'est la mère... Donc il y a l'idée de l'allaitement, hein, la mère oublie-t-elle son nourrisson, c'est celui qu'elle allaite. Donc il y a Dieu qui allaite son peuple et qui montre sa tendresse à l'enfant de sa chair, en fait de son sein. Donc le sein, ça, c'est pas spécifiquement féminin dans ce cas-là, hein, c'est parce qu'on parle du sein d'Abraham aussi, c'est vraiment dans les bras finalement. Ça peut être dans l'utérus aussi, mais ça peut être dans les bras du père. Et Ésaïe 66, donc le verset 13 surtout, hein, il en ira comme d'un homme que sa mère console. Là, il y a la consolation hein, dont tu parlais, Naham. On connaît le début de consoler mon peuple, Nahamu, Nahamu, Ami. C'est vraiment un très beau poème de consolation. Voilà. C'est moi qui ainsi vous réconforterai, oui, dans Jérusalem vous serez réconfortés. Donc il y a l'idée de Dieu comme une mère qui console son enfant, et ça c'est vrai que c'est tout à fait frappant, je trouve, cette tendresse de Dieu, voilà.
Et on peut peut-être terminer par deux passages du Nouveau Testament, en Matthieu 23 et dans la première épître de Pierre. Jésus dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Bon, je crois que ça se passe de commentaires, et je suis très heureux que tu aies mis ce texte parce que j'y pensais depuis le début, et c'est un texte qui me bouleverse. Alors, première épître de Pierre. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Comme des enfants nouveau-nés, alors on est un peu comme Nicodème, voilà, est-ce qu'on peut retourner dans le sein de notre mère? Il ne s'agit pas d'être puéril. Ce Dieu qui se révèle comme Père ne nous condamne pas à être des enfants. Si, des enfants de Dieu. Mais il ne s'agit pas... Bernanos le disait sans cesse. Il disait: je veux être fidèle à l'enfant que j'ai été, mais non pas à l'enfant inachevé et puis complice aussi de... mal, l'enfant n'est jamais totalement innocent, comme le disait saint Augustin. Il s'agit de se laisser enfanter et de découvrir une autre forme d'innocence qui n'est pas la non-connaissance du mal, qui est au contraire un dépassement, qui est profondément connaissance du mal, mais rejet du mal. Donc nous avons à devenir des enfants dans ce sens, à retrouver cette innocence qui n'est pas le paradis perdu, fusionnel, matriciel, un monde onirique, mais au contraire, à retrouver l'innocence lucide de ceux qui, grâce à la paternité de Dieu, connaissent et font la distinction entre le bien et le mal, ce qu'un petit enfant ne peut pas faire. Alors évidemment, cette paternité de Dieu, eh bien, vous le savez, elle ne fait sens que dans une constellation d'autres symboles. Marc le disait, il y a d'autres figures pour parler de l'Alliance. On a parlé du roi, on a parlé de l'époux, de l'épouse. Il y a le berger, bien sûr, l'image pastorale, et d'autres images comme le souffle ou d'autres images qui viennent du monde naturel. Donc, vous voyez, ça atténue quand même ce que l'image du père pourrait susciter de connotations autoritaires, dominatrices, etc. Donc, voilà. Mais Dieu se révèle comme père. Il s'agit bien d'une révélation. Je vous l'avais dit le mois dernier, parmi les 99 noms que l'islam prête à Dieu, les 99 attributs de Dieu, il n'y a jamais le Père. Nos frères musulmans souhaitent, au nom d'un monothéisme absolu, ne pas faire entrer la relation de Dieu et de l'homme sur un plan de continuité, de filiation. Il y a bien rupture entre les deux mondes. Dieu n'est pas Père. En revanche, dans le monde juif, et j'espère que vous l'avez compris ce soir, il y a l'anticipation de ce que le christianisme va révéler en plénitude. Mais à vrai dire, toute la paternité est déjà là. Au fond, Jésus n'apporte rien de nouveau en termes de théologie, mais il le vit, il est le Fils de manière plénière. Il est créateur, il n'est pas père au sens où il... comment on peut dire ça ?
Voilà, c'est le Dieu, c'est un peu le Dieu... il n'y a que Dieu qui est Dieu, et c'est vraiment ce monothéisme strict. Voilà, il est... c'est un peu peut-être le Dieu de la théologie négative, ce que tu introduisais avec ça. C'est-à-dire que voilà, toute image et tout terme sur Dieu est quand même déjà un peu un blasphème. Donc en fait, Dieu est l'infiniment grand. Et donc quelque part dans le Dieu-Père, s'ils le disent créateur, et puis quand même il est plein d'une tendresse et de miséricorde. Hein, c'est comme ça que commence la première sourate du Coran, qui est même pas la première sourate, qui est l'introduction, l'ouverture, le mode d'emploi du Coran normalement. Voilà, c'est le miséricordieux. Donc à la limite, il y a déjà peut-être cette tendresse de Dieu dans le Coran. S'il refuse le nos pères, c'est peut-être par polémique avec la Trinité, car vous savez que l'islam a été beaucoup imprégné de prénicéens, c'est-à-dire de chrétiens qui refusaient le dogme, l'élaboration du dogme de la Trinité, qui est relativement tardif, qui n'est pas particulièrement biblique, qui est quand même une élaboration théologique un peu plus complexe, qui est apparue progressivement. Donc les musulmans datent, finalement la théologie des musulmans a été profondément inspirée par des chrétiens qui n'étaient pas trinitaires, qui n'avaient pas accepté ce dogme de la Trinité, et par conséquent, ils ont, oui, une théologie où ils se sont méfiés de ce terme, voilà. Et à mon avis, c'est plutôt là en creux, parce que c'est un terme qui était connu, qu'ils connaissaient très bien, donc s'ils ne l'ont pas mis, c'est parce qu'ils ont vraiment, ils l'ont rejeté, en fait, pour promouvoir la grandeur de Dieu. Mais dans ce que tu disais, on sentait quand même que nous aussi, finalement, on se méfie un peu de ce terme, et qu'on ne veut pas le comprendre justement comme le Dieu qu'on fabrique à notre image, à nous. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faut se rappeler quand même que dans le Nouveau Testament, l'Évangile, ce n'est pas tellement le géniteur, c'est le Dieu qui nous adopte et le Dieu qui nous engendre un peu comme dans ce passage finalement de la première de Pierre. Hein, donc comme des enfants nouveau-nés, c'est comme avec Nicodème, c'est une naissance spirituelle, c'est pas... voilà, c'est pas, on n'est pas des petits dieux non plus. Voilà.
D'où, et c'est mes derniers mots, d'où la théologie négative qui dit simultanément Dieu est Père, il faut maintenir cette affirmation, mais il n'est pas Père au sens où nous comprenons spontanément et immédiatement ce qu'est un Père. Donc la théologie négative maintient les deux, contrairement à l'islam qui dira que Dieu n'est pas Père. La théologie négative va dire Dieu est Père, mais attention, nous avons à découvrir alors ce que veut dire Père comme Dieu est Père. Donc il est Père, mais il n'est pas Père au sens où nous-mêmes, spontanément, nous pourrions imaginer qu'il est Père en plaquant effectivement des images, des schémas et en fabriquant de l'idole, bien sûr, ou une statue de Dieu. Voilà, et c'est... nous allons nous atteler dès les prochaines séances. Nous allons entrer encore plus dans ce mystère de la paternité de Dieu.
Avec l'enfant inattendu, donc les lectures des récits des maternités, paternité, hein, Matthieu 1, 18-25, avec Joseph, et puis Luc 1, 26-56, avec Marie, qui enfant inattendu pour Joseph et pour Marie. Effectivement, on sera un peu dans la période déjà de Noël, avec l'Avent, mercredi 7 décembre. Alors, on sera à Saint-Eustache, donc 2 impasse Saint-Eustache. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous pouvez poser des questions, intervenir, discuter comme vous voulez par la suite.